Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Point d'orgue, votre rendez-vous de musique sacrée. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro consacré aux merveilles du répertoire. Et cette semaine ainsi que la semaine prochaine, je vais vous inviter dans un tout autre univers que celui que nous avons l'habitude d'entendre sur Point d'orgue. Je vais tout simplement vous plonger dans la musique médiévale parisienne. Et le chapitre est tellement vaste que cela valait bien deux émissions à mon sens. Alors, attachez vos ceintures et c'est parti pour le XIIIe siècle avec l'école de Notre-Dame. Alors il faut savoir qu'au XIIe siècle, Paris devient la capitale du savoir et de la foi. La Seine encercle l'île de Cité comme un écrin et sur ce rocher spirituel, une cathédrale fameuse entre toutes s'élève vers le ciel, j'ai nommé Notre-Dame de Paris. Le chantier est lancé en 1163 par l'évêque Maurice du Sully et ce chantier incarne une idée neuve du monde, celle d'un univers ordonné, lumineux, rationnel, bref, un monde où Dieu s'exprime par la mesure. Mais dans les ateliers de chant de la cathédrale, parce qu'il n'y a pas que les pierres qui sont taillées, une autre construction s'élabore, elle, plutôt invisible, mais c'est celle du son. Des clercs, les musiciens, les savants y inventent une musique à plusieurs voix, une musique bâtie comme une voûte de pierre, et c'est là que Notre-Dame va devenir véritablement le berceau de la polyphonie occidentale, et qu'on appellera plus tard l'école de Notre-Dame, celle qui nous inspire aujourd'hui. Alors il faut savoir que un petit peu dans ces années-là, en fait, autour des années 1150, Paris devient le cœur intellectuel de l'Europe chrétienne, rien que ça. Les écoles cathédrales, Saint-Victor, Sainte-Geneviève, Notre-Dame, préfigurent l'université qui, en fait, va naître un siècle plus tard. Dans ces écoles cathédrales, on y enseigne la théologie, la logique, la philosophie et les arts libéraux. Vous savez, ces références à tous les arts antiques, par exemple la grammaire, la dialectique, la rhétorique, mais également l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie et, bien entendu, c'est celle qui va nous intéresser, la musique. Car, selon saint Augustin, ne l'oublions pas, la musique est science du nombre et mesure du temps. En plus, dans cette période-là, il y a de grands maîtres parisiens intellectuels, Pierre Lombard, Abélard, puis Thomas d'Aquin, qui développe une pensée où la foi s'accorde à la raison. Et ce mouvement, on va l'appeler la scolastique, c'est-à-dire une recherche d'ordre, d'équilibre, d'intelligibilité. Et cet esprit nouveau s'exprime également dans la musique. Les sons, comme les idées, doivent désormais être organisés.
Thank you.
Alors, dans un premier temps, et comme vous venez de l'entendre, dans les premiers siècles, le chant liturgique de l'Église est monodique, c'est-à-dire que vous avez une seule ligne de mélodie, le chant grégorien. Mais dès le 9e siècle, des traités comme le Musica Enchiriadis, vers 870, ou le Scholica Enchiriadis décrivent une première forme de polyphonie qu'on va appeler organum. On double à ce moment-là la mélodie principale à une quarte ou une quinte. Ça donne une esthétique tout à fait particulière. Et au XIIe siècle à Paris, cette pratique se transforme en un art savant. Les voix ne marchent plus forcément parallèlement, elles vont devenir les unes et les autres indépendantes. Elles rentrent dans une logique d'alternance, de tension et de résolution. La musique se fait véritablement architecture sonore. Alors dans les manuscrits qu'on a retrouvés à Florence, le Pluteus par exemple et le Wonfettbüttel, on retrouve les traces de ces premières tentatives polyphoniques. Elles annoncent déjà les grandes œuvres de Léonin et Pérotin, les deux grands compositeurs qui vont nous intéresser à présent. Alors je vous le disais, le premier grand maître de cette école s'appelle Léonin ou Magister Léoninus et nous connaissons en fait son nom grâce à un témoin précieux. Alors le nom fait peut-être sourire, mais bon, quand même, heureusement qu'il a été là. Il s'agit du traité du moine anonyme 4, rédigé vers 1270, probablement à l'université de Paris. Et dans ce traité, il y écrit « Le meilleur compositeur d'organum fut Léonin. Il fit un grand livre d'organum pour l'usage de la cathédrale de Paris ». Et c'est ce recueil, le Magnus Liber Organi, qui contient des pièces destinées aux grandes fêtes de l'année liturgique, comme Noël, Pâques, la Pentecôte, etc. Et c'est là où Léonin va composer à deux voix. Une voix inférieure, la ténor, qui garde la mélodie du chant grégorien, qui forme comme une base solide, comme la nef d'une église, et la voix supérieure, elle, improvise autour de cette base-là, elle dessine presque des arabesques sonores, presque comme un vitrail de lumière mouvante. Et ainsi, pour la première fois dans l'histoire de la musique occidentale, la musique devient verticale, c'est-à-dire que nous avons deux lignes qui vont se superposer sans se confondre. Ainsi, on a une sorte d'union entre le terrestre et le céleste qui s'unissent dans une même harmonie.
Thank you.
je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais je vous ai en fait fait écouter la même chose, un Widerrout omnes, c'est-à-dire d'abord une version grégorienne et puis cette première version avec ses voix qui s'entremêlent de ce fameux grand maître Léonin. Et quelques décennies plus tard, un autre grand maître prolonge l'œuvre de Léonin que nous venons d'entendre. Il s'agit de Pérotin le Grand ou Pérotinus Magnus, et c'est toujours ce fameux moine, l'anonyme 4, qui nous le dit. Pérotin, le plus grand maître, perfectionna le grand livre d'Organum et composa de magnifiques œuvres à 3 et 4 voix. Donc vous voyez cette diversité des voix qui viennent s'empiler les unes aux autres, qui viennent faire quelque chose de toujours plus architectural, de toujours plus élevé. Et nous nous situons là autour des années 1198-1220, au moment où la façade de Notre-Dame est achevée et Pérotin représente l'apogée du style parisien. Il va introduire une innovation capitale, le rythme mesuré. Alors il fonde sa musique sur les modes rythmiques, décrits par Jean de Garlande et Franco de Cologne. Ce sont des formules de durée longue et brève qui organisent le temps un peu comme un poème. Et grâce à lui, la musique devient mesurable. Là, on rentre dans quelque chose qui va être beaucoup plus, dans nos oreilles, beaucoup plus contemporain presque, alors qu'on se situe vraiment dans le Moyen-Âge. Le temps ne devient plus une matière fluide, mais une construction. Et cette découverte qui, aujourd'hui, nous semble si simple en apparence, fonde en vérité toute la musique occidentale. Sans Pérotin, il n'y aurait pas eu de notation, ni de mesure, ni même de contrepoint. Imaginez l'influence de cet immense musicien. Alors son Widerrout omnes à lui, donc vous allez voir qu'on garde le même chant, il a été écrit à plusieurs voix, sans doute pour la messe de Noël de 1198, et c'est une véritable prouesse d'équilibre. Les voix s'enlacent, se séparent, s'élèvent, comme les arcs-boutants de la cathédrale, dont elles semblent être l'écho sonore.
Thank you.
extraordinaire production musicale Viderunt Omnes, et j'espère que vous avez bien entendu la différence entre les trois extraits que je vous ai présentés, le grégorien seul, tout nu, presque, si j'osais aller dans cette comparaison-là, ensuite cette version de Léonin, et puis celle que vous venez d'entendre de Perrotin, là aussi toujours avec plus de complexité, comme si effectivement il y avait ce lien évident entre l'architecture de la cathédrale et l'architecture sonore. Et vous entendez bien que finalement, en quelques années, très rapidement, les choses se sont construites. Vous entendez effectivement cette version beaucoup plus rythmique. J'espère que vous avez entendu. Alors, c'est extraordinaire là, parce que vous avez écouté de la musique pendant presque 4 minutes sur ce Viderunt Omnes. En fait, il n'y a que 5 syllabes, ils tiennent 4 minutes. Et comme une grande architecture sonore, comme un espèce de grand crescendo, effectivement, les choses partent de manière presque intime et finalement se construisent comme se construirait finalement la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est absolument extraordinaire. Ordinaire cette manière de lier les pierres et le chant. Et c'est effectivement dans la nef encore neuve de Notre-Dame que ces polyphonies résonnaient jusqu'à parfois 8 secondes, rendez-vous compte, chaque note se mêlait à la note suivante et ainsi on avait une sorte de création d'un halo sonore qui était comparable à la lumière des vitraux. Le lieu et la musique devenaient ainsi indissociables. Et certains musicologues l'ont bien noté, et notamment le musicologue Craig Wright qui disait « La cathédrale fut l'instrument de Perrotin ». Et il est vrai que souvent, quand on pense à ces immenses nefs, eh bien on peut parfois penser à ces grandes caisses de résonance de certains instruments qui font résonner la musique. Et c'est vrai que quand on pense à l'architecture de la cathédrale, tout concourt à un même idéal avec celui de la musique. La hauteur, la clarté, la symétrie, et la recherche d'un ordre divin. C'est véritablement ici que le gothique, l'art gothique et la polyphonie naissent ensemble, l'un dans la pierre, l'autre dans le son, et dans les deux cas, l'homme cherche à approcher Dieu par la structure et à rendre visible ou audible l'invisible. C'est véritablement ce qui va faire que cette musique va être un énorme bouleversement dans la musique occidentale et en fait va irradier toute l'Europe. On n'imagine pas aujourd'hui quelle a pu être l'influence de cette musique-là. Je vous le disais, ça a été la base du contrepoint, des notations rythmiques, etc. Et en fait, sans ces compositions-là, sans l'école de Notre-Dame, il n'y aurait pas eu plus tard les immenses compositeurs même de Rome. On peut penser par exemple à Palestrina et plus tard Bach et consorts, tous ceux qui ont suivi. C'est véritablement un immense marqueur de la musique occidentale. Alors il faut savoir que avec cet héritage, la musique occidentale entre dans un âge, on va dire, conscient. C'est-à-dire que pour la première fois, les compositeurs vont signer leurs œuvres, ils vont les noter et ils vont les fixer. N'oubliez pas que pendant des siècles, la tradition a été orale, notamment avec le chant grégorien. Et beaucoup de manuscrits, par exemple ceux de Florence et de Montpellier, extrêmement fameux, témoignent de cette mutation. La musique n'est plus seulement entendue, elle est également pensée. Et là aussi, c'est une véritable révolution pour l'époque. Cette révolution intellectuelle, elle correspond à un moment unique dans l'histoire européenne, celui où la raison et la foi s'accordent pour chercher la beauté dans la proportion. Et la proportion, c'est intéressant, notamment d'un point de vue rythmique. C'est pour ça que je vous parlais autant des rythmes. Et c'est cette idée que la beauté est ordre qui traverse toute la Renaissance jusqu'à la fugue de Bach, ou même, on peut aller plus loin, à la symphonie classique. C'est ça qui est absolument extraordinaire, c'est cette espèce de filiation. Si je vous parle de cette histoire-là, alors il y a non seulement la dimension esthétique, il est vrai qu'on n'a plus l'habitude d'entendre ce genre de musique-là dans nos églises, et c'est parfois dommage, hein, parce que c'est une grande part de notre patrimoine, mais il est important de le situer non seulement d'un point de vue historique et philosophique, parce que ça s'inscrit dans quelque chose de tout à fait réel, conscientisé dans la période du Moyen-Âge, mais également parce que ça innervait toute notre musique occidentale. Et vous l'avez bien compris d'abord avec cette monodie grégorienne, simple en apparence, mais en vérité fortement lié à l'anima avec le souffle, puis ensuite avec Léonin qui a su un petit peu jouer avec cette voix qui dansait, ses arabesques, ses volutes de fumée, peut-être qu'on peut penser à l'encens, et bien entendu à la lumière qui traversait les vitraux, et naturellement l'accomplissement de cette école avec Perrotin le Grand, qui n'a pas volé son nom, hein, effectivement son qualificatif. Il y a dans cette musique-là quelque chose de véritablement novateur et qui a donc, je vous le disais, innervé toute la musique occidentale. Alors maintenant, je vais vous proposer d'écouter une dernière pièce. Elle est assez courte. En fait, ça va être un extrait de son Alléluia Nativitas, l'Alléluia de la messe de Noël. Et vous allez l'entendre, il commence un petit peu presque, on va dire simplement, par rapport au Viderunt Omnes que vous venez d'entendre. On va même entendre une petite partie grégorienne. Et puis, le chant va reprendre plus structuré, plus rythmique et plus dynamique que jamais. Il faut dire effectivement que cela se rapproche de la joie et des battements du cœur de plus en plus resserrés, tellement la joie est immense en cette nuit de Noël. Voici donc l'Alléluia Nativitas de Pérotin le Grand. La joie de cet Alléluia n'est même pas contenue, comme quoi, avec de la simplicité mais beaucoup de musicalité, avec cette introduction des rythmes, nous avons ce côté joyeux porté par ces rythmes, presque ce feu d'artifice sonore qui nous donne là aussi libre cours à cette joie que la musique exprime si bien. Alors si je vous ai dit que ces deux grands compositeurs, Léonin et Perrotin, avaient construit toute la musique occidentale, eh bien dans la prochaine émission, nous allons suivre leurs héritiers, les compositeurs anonymes du XIIIe siècle qui, dans les manuscrits de Montpellier, manuscrits dont je vous parlais tout à l'heure, ont inventé une nouvelle forme, le motet, où la parole, la poésie et la polyphonie s'uniront pour donner à l'Europe médiévale une voix nouvelle. Voilà, mesdames et messieurs, pour ce premier tour dans l'école de Notre-Dame de Paris du Moyen-Âge. J'espère que vous avez fait une belle découverte de répertoire. Moi, en tout cas, c'est de la musique que j'ai pas l'habitude d'entendre, mais quelle grâce d'entendre la musique des siècles. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur Point d'Orgue.